Bonjour, on est de retour sur Choc FM dans Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez sur le 105.1 et sur le chocfm.ca en ondes sur la bande FM, le 105.1 FM et sur les applications, je pense on est sur TuneIn. Vous pouvez écouter aussi Choc FM sur les bandes, sur la télévision. En fait, je ne sais pas exactement les numéros de canaux sur Bell et sur Rogers. Ben oui. C'est possible de regarder de la radio. Mais bon, il n'y aura pas les vidéos qui vont avec. Mais ça, c'est quand on sera de retour en studio. Donc, cette émission est enregistrée et vous l'écoutez ce samedi 18 novembre, le troisième samedi du mois de novembre. C'est Cédric Ingonne pour vous servir, chers auditeurs et chères auditrices. On est de retour après la première page. La première partie de cette émission, on a beaucoup parlé de foot, de soccer avec les éliminatoires en Europe, en Afrique et en Amérique latine. On a dit aussi un mot sur la CFL avec la Coupe Grey. On a également dit un mot sur la NFL avec les matchs. Et on n'a pas donné de classement, mais ce n'est pas très utile. Là, pour l'instant, ce sera beaucoup plus utile après la semaine 9, je pense, qui marque la moitié officiellement de la saison en NFL. Là, pour l'instant, dans cette première partie, dans cette deuxième partie, pardon, on va parler de la Ligue nationale de hockey, la NHL, puisqu'il y a pas mal de matchs qui ont lieu déjà, les classements. Donc, on va aller commencer par la conférence Est, puisque c'est là que nous sommes situés, ici à Toronto. Donc, dans la division Atlantique, c'est les Bruins qui sont en tête toujours avec seulement, en 15 matchs, seulement 3 défaites. Donc, Boston premier, Panthers de Floride deuxième, Red Wings troisième, les Maple Leafs quatrième, Lightning de Tampa Bay cinquième, Montréal le Canadien sixième, les Sabres de Buffalo septième et en queue de classement, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Dans la division métropolitaine, c'est les New York Rangers qui sont en tête, suivis par le Washington, les Capitals, qui sont sur une belle série. Ils avaient commencé la saison de manière catastrophique et là, ils sont sur une belle série de victoires. Apparemment, le vétéran Ovechkin est en train de retrouver, le chemin des filets. Troisième, c'est la Caroline des Hurricanes, Philadelphia quatrième, Pittsburgh, les Penguins qui sont sur une série de victoires. C'est beau là, ça fait beau là, le retour des papys. Hein. Vous savez, pour ceux qui connaissent bien la Ligue nationale de hockey, Pittsburgh, c'est vraiment une équipe de vétérans là. Je pense les trois meilleures stars ont près de 35 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. C'est surprenant de voir qu'ils arrivent à retrouver un peu d'énergie. Donc, parmi les trois derniers de la division métropolitaine, ce sont New Jersey, les Devils, les Islanders de New York et enfin les Blue Jackets de Columbus. Donc ça, c'était dans la conférence Est. Dans la conférence Ouest, c'est Dallas qui est en tête avec un très, très beau début de saison. Seulement 4 défaites en 15 matchs, suivi par Colorado, l'Avalanche, pardon, New York Jets, les Blues de Saint-Louis, les Coyotes de Arizona, les Wilds de Minnesota, les Blackhawks de Chicago avec leur prodige Connor Bedard, mais qui commence un peu à s'essouffler. Là, il a du mal à confirmer ses belles performances au début de saison. Et pour finir, dans la division centrale, c'est les Predators de Nashville. Dans la division Pacifique, c'est Vancouver, la grande surprise hein, de l'année. Premier de la division Pacifique, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Il faut savoir que durant les trois dernières années, Vancouver, c'était vraiment la catastrophe là. On se demandait même si le club, ce que les dirigeants du club voulaient, puisqu'il n'y avait aucune progression. Et là, apparemment, c'est en train de comment dire ça, de porter ses fruits avec toutes les grandes décisions qui ont eu lieu à la tête du club, notamment avec l'émergence de la star Peterson. Donc oui, c'est un jeune joueur comme ça qui est en train de surprendre. On savait déjà qu'il était bon, mais là, il est en train de confirmer vraiment à un niveau inattendu. Donc Vancouver qui est premier dans la division Pacifique, Las Vegas, les Golden Knights, les champions en titre qui sont deuxièmes, Los Angeles les Kings troisième, Anaheim les Ducks quatrième. Là aussi, c'est une surprise parce que Anaheim depuis presque une décennie, ça va pas à Anaheim, il n'y a pas eu de nouvelles stars. Apparemment, ils étaient en reconstruction et maintenant la reconstruction est en train de porter des fruits. Seattle, le Kraken, la dernière équipe créée par la Ligue nationale de hockey qui est cinquième. Les Flames de Calgary, sixième. Apparemment, les Flames là-bas à Calgary, tout le monde veut partir de l'équipe. C'est la catastrophe totale, personne qui veut rester autour. C'est surprenant ce qui arrive à cette équipe-là parce qu'il y a encore, je pense, 3 ans, ils étaient parmi l'une des équipes les plus puissantes dans la Ligue nationale de hockey, il est retrouvé dans cette situation-là. C'est vraiment surprenant. Les Oilers, là, c'est encore pire. C'est l'autre équipe de l'Alberta. On a appris il y a quelques semaines seulement que l'ancien gardien de Toronto Maple Leaf, Jack Campbell, qui faisait des très belles performances ici, qui avait passé un an à Edmonton, qui avait été signé un contrat, beau contrat, 5 millions par année sur 5 ans. Après un an, ils ont déjà décidé de le mettre de côté à cause de performances très irrégulières. Et ce qui se passe souvent dans le hockey professionnel, c'est que lorsque un joueur, lorsqu'il juge qu'il n'a pas des performances satisfaisantes, il l'envoie vers, disons, le club école. On appelle ça la AHL. Donc, disons, c'est comme un genre de deuxième division. Le problème, c'est que mettre un joueur, disons en deuxième division, alors qu'il est payé un méga contrat de 5 millions par année, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre, vous voyez. Et souvent, lorsqu'on met un joueur dans une ligue, disons, moins performante, c'est censé lui permettre de mieux jouer. Le problème, c'est que, dans le cas de Jack Campbell, depuis qu'il est dans la ligue mineure, il ne fait qu'accumuler les performances catastrophiques. Ça marche pas. Ça va vraiment pas pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il reste 4 ans sur son contrat. Est-ce qu'il va falloir faire ce qu'on appelle un buyout, c'est-à-dire racheter ses dernières années de contrat? Ce serait un désastre industriel, vous voyez? 25 millions. Parce que même s'il rachète le contrat du joueur, il faut quand même le payer. Vous pouvez pas payer un joueur et puis lui dire reste à la maison, ça se fait pas. Les Maple Leafs l'ont fait plusieurs années, mais est-ce que Edmonton et les Oilers ont la capacité financière de faire la même chose? Je ne suis pas convaincu de cela. Toujours est-il qu'ils sont avant-derniers de la division Pacifique avec un bilan, écoutez là, 10 défaites en 15 matchs, ce n'est pas possible. Ici. Même s'ils sont depuis, et d'ailleurs, ils avaient remplacé le coach d'avant là, et le nouveau coach qui vient d'une ligue mineure est sur une séquence de 3 victoires consécutives, mais bon. On espère qu'ils sauront redresser la barre. Les tout derniers dans la division Pacifique, ce sont San Jose, les Sharks. Mais de ce côté-là, on sait aussi que les Sharks, c'est la reconstruction totale. On va surveiller le détail des matchs pour cette fin de semaine. Match notable, disons, ce samedi. C'est les Maple Leafs qui jouent en Suède. Ils jouent en Suède contre les Red Wings de Détroit. C'est assez surprenant là, mais c'est sûrement une décision marketing d'amener toute une équipe professionnelle comme ça en Suède. Ça va faire plaisir à Rosendin, ça va faire plaisir à, comment il s'appelle, le joueur des Maple Leafs, William Nylander, puisque c'est de là-bas qu'il vient. Il faut savoir que Nylander, il est né à Toronto, mais ses parents sont suédois, donc en quelque sorte, il se retrouve à jouer à la maison. On verra ce que ça va donner. Ce sera le vendredi, ce match-là. Donc vendredi après-midi que ce match-là aura lieu. Donc au moment où vous écouterez cette émission-là, on n'aura pas encore le score de ce match-là. Alors que les Sabres de Buffalo vont jouer contre les Jets, les Panthers de la Caroline vont jouer contre les Ducks. Quel match qui intéresse une équipe canadienne? Calgary qui va affronter les Flames et les Bruins de Boston qui vont recevoir le Canadien de Montréal. C'est essentiellement ça, les matchs intéressants. Je voulais dire un mot sans transition sur la NBA, mais la G League. Je vous ai promis en première heure qu'il y aura, et c'est déjà fait là, c'est déjà fait, c'est déjà monté, c'est tout fait, interview exclusive du seul coach francophone, coach titulaire francophone dans une équipe professionnelle en Amérique du Nord. Il y a 2 ans, j'avais réalisé l'interview du coach Patrick Mutombo, qui était le seul coach francophone qui était coach du Raptor 905 dans l'équipe de Mississauga. C'était une belle interview. Merci encore à coach Patrick de nous l'avoir accordée. C'était il y a 2 ans. C'était une interview qui avait duré presque 40 minutes. Et c'était des bons mots. On avait parlé de basket. On avait parlé du basket avec le 905 en Amérique du Nord, un peu européen, africain. Et là, on a encore une interview en français avec un coach professionnel. D'une équipe professionnelle, ça n'arrive pas souvent. Et je vous fais la surprise là, vous allez l'entendre au cours des prochains jours. C'est une exclusivité de Cédric du Sport sur Choc FM. Le 905, juste un mot rapidement pour dire qu'ils ont commencé la saison, ça fait maintenant une semaine. Ça n'a pas bien commencé du tout en 3 matchs, 3 défaites déjà. C'est vrai qu'il y a eu, oui, un match à l'extérieur, 2 matchs à domicile et ils ont perdu les 2 matchs, notamment. Le match de Dimanche, la semaine dernière, ils ont joué contre le College Sky Park avec mon compatriote Chris Silva qui a fait une belle performance là. Si je me rappelle bien, 27 points, 10 rebonds. Mais pour le 905, déjà commencé la saison avec 3 défaites consécutives, c'est pas souvent que ça arrive. Le coach Eric Khoury qui va devoir se triturer les méninges pour trouver une solution par rapport à ça. Parce que on sait que dans la philosophie des Raptors, c'est priorité à la performance, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Donc on espère bonne chance aux Raptors 905 et on espère qu'on pourra les couvrir un de leurs matchs d'ici bientôt. On va maintenant sur la Grande Ligue, la NBA, avec donner les classements dans la conférence Est. C'est les Celtics de Boston, des gens seulement, ben, pas deux gens, qui sont en tête. 11 matchs, seulement 2 défaites, suivis par Philadelphia. 3 défaites, Indiana, équipe surprise, 4 défaites en 11 matchs, les Bucks de Milwaukee, 7 victoires et 4 défaites, le Heat de Miami, 5e, les Knicks, 6e, Brooklyn Nets, 7e, Atlanta Hawks, 8e, Magic d'Orlando, 8, Atlanta Hawks, 8e, pardon, Magic d'Orlando, 9e, Cleveland Cavaliers, 10e, les Raptors, 11e, Chicago, 12e, Charlotte, 13e, Washington, les Wizards 14e et les Pistons de Détroit qui sont tout simplement bons derniers avec 2 victoires et 10 défaites. Et déjà, c'est la désillusion là pour les Pistons, mais on sait que depuis plusieurs années, ils essayent de retrouver un niveau de jeu décent et que pour l'instant, c'est priorité au développement des jeunes joueurs. Dans la conférence Ouest, c'est Denver qui confirme là, beau début de saison. C'est les champions en titre, il faut le rappeler. 9 victoires et seulement 2 défaites, suivi par Dallas qui surprend, 9 victoires, 3 défaites. Minnesota, les Timberwolves qui restent sur une série pardon, de 8 victoires, non, 7 victoires consécutives, là, notamment 2 victoires sur le terrain de Golden State Warriors. Et on va revenir là-dessus. Houston, les Rockets aussi, beau début de saison. Là, c'est une surprise avec le nouveau coach Ime Udoka qui a insufflé pardon, une certaine solidité défensive à cette équipe-là et ça a l'air de rapporter ses fruits. Et puis en plus avec l'apport des vétérans comme Brooks et l'ancien de Toronto Raptors Freddy Van Vliet, ça a l'air de bien marcher là pour l'instant en tout cas. Tant mieux du côté de Houston. Thunder de Oklahoma, 7 victoires, 4 défaites, donc 5e pour l'instant. 6e Sacramento, 7e les Warriors, 8e les Lakers, 9e les Suns. 10e Pelican de New Orleans, 11e les Utah Jazz, 12e les Clippers. Les Clippers, un mot sur les Clippers. Depuis l'arrivée de James Harden, vous savez, il y a eu comme un genre d'échange de joueurs, ça fait maintenant à peu près 2 semaines. Tout simplement, depuis que James Harden est arrivé, 0 victoire, 5 défaites. Écoutez, dans l'histoire de la NBA, je suis la NBA depuis à peu près une vingtaine d'années, j'ai rarement vu une équipe où on fait venir une star et ça les fait. Contraire, c'est comme s'il avait apporté la malchance. James Harden, dans cet effectif-là, vous avez James Harden, ancien meilleur marqueur, ancien meilleur passeur de la ligue. Vous avez Paul George, qui était pendant longtemps l'un des 3 meilleurs joueurs dans la NBA. Vous avez Kawhi Leonard, 2 fois MVP des finales NBA, l'un des tout meilleurs joueurs, aussi bien en défense qu'en attaque en NBA. Vous avez Russell Westbrook, qui était plusieurs fois meilleur marqueur et meilleur passeur de la NBA. Record absolu de triple-double dans l'histoire de la NBA. Donc, 4 joueurs dominants, 3, 4 joueurs superstars qui probablement iront un jour au Hall of Fame. Mais la mayonnaise ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs problématiques. Une, ce sont des joueurs qui, sans doute, aiment trop garder le ballon. Le basket, c'est un sport collectif. 5 joueurs ou 5 joueuses autour d'un ballon. Si vous avez 4 joueurs parmi les 5 qui aiment garder le ballon, déjà l'alchimie ne prend pas. Deuxième problématique, James Harden. James Harden, c'est un joueur qui a l'habitude d'être dominant, qui a l'habitude de prendre, disons, entre 15 et 20 shoots par match minimum. Mais si tu as avec toi d'autres joueurs qui ont le même volume de shoots dans un match, le ballon, il doit circuler. Mais quand il y a trop de joueurs qui prennent des mauvaises décisions, ça ne passe pas. Ça ne passe absolument pas. Troisième problématique, la défense. Lorsque James Harden est arrivé, il a amené un potentiel en attaque, mais il est connu pour être un joueur paresseux en défense. Et c'est ce qui se passe. Les joueurs qui sont partis, comme le Français Nicolas Batum, qui avait une certaine solidité, une intelligence de jeu, il est parti et il a amené avec lui ses capacités défensives. Il a amené avec lui ses capacités, on appelle ça playmaker. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi bien organiser le jeu que faire des passes et scorer de temps en temps. Et ça manque. clairement aux Clippers. Et dernière problématique, le coach. Le coach Tyronn Lue, c'est comme ce qu'on appelle un player coach. Donc, un coach qui est très proche de ses joueurs. C'est un coach qui a tendance à être généreux, très compréhensif envers ses joueurs, très proche de ses joueurs. Mais dans un univers comme ça, dans un contexte où le coach est vraiment proche de ses joueurs, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où il a du mal à dire à certains joueurs de rester sur le banc. Il a sans doute du mal à le faire. C'est pour ça que lorsqu'on est coach, on ne peut pas être « pote » entre guillemets avec ses joueurs. Il faut être le dirigeant. Il ne faut pas être leur ami. Il y a eu des exceptions dans l'histoire du sport avec, par exemple, quelqu'un comme José Mourinho dans le foot, le soccer professionnel, qui était quelqu'un réputé être très proche, quasiment paternel avec ses joueurs. Mais j'ai dit bien paternel, pas fraternel. Coach Lou, le coach des Los Angeles Clippers, a plutôt tendance à être fraternel. Il est vraiment ami, copain avec ses joueurs, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce qui fait que ça a sans doute un effet sur les décisions qu'il prend. Et là, je deviens inquiet pour lui parce que pour un coach, avoir une glissade comme ça, 5 défaites consécutives, en ayant fait venir un joueur majeur, à un moment donné, le propriétaire de l'équipe va commencer à se poser des questions. Il a mis des milliards sur cette équipe-là. Il est en train de faire construire un stade majeur pour cette équipe-là. Parce qu'il faut savoir qu'en NBA, les deux seules équipes qui jouent dans le même arène, c'est les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Les Clippers n'ont jamais rien gagné. Et pour se donner comme une signature, ils sont en train de construire un stade qui leur appartiendra à eux. Mais si vous ne gagnez rien, vous allez inaugurer votre stade avec quoi? Donc c'est là, cette problématique-là se heurte les Clippers maintenant. Ils sont sur 6 défaites consécutives. J'avais dit 5, mais c'est en fait, c'est 6 défaites consécutives. Et on espère que la mayonnaise va prendre parce que sinon, le transfert de James Harden va se révéler l'un des plus grands fiascos de l'histoire récente de la NBA. 13e, c'est les Spurs de San Antonio. On avait fait un gros format dessus. On avait fait même un live Facebook dessus pour parler du prodige Victor Wembanyama. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Écoutez, depuis ce live-là, ils sont sur 5 défaites consécutives. C'est compliqué pour les jeunes Spurs. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Oui, ils n'iront probablement pas en playoff. Le maximum qui puisse leur arriver, c'est ce qu'on appelle le play-in. Donc, les matchs qualificatifs. Et pour cela, il faut finir au minimum 10e. On ne sait pas si ça va le faire. Mais il faut vraiment que les coéquipiers de Victor Wembanyama arrivent à mieux exploiter son potentiel. 14e, ce sont les Trail Blazers de Portland. Et les derniers, ce sont les Grizzlies. On sait que dans cette équipe-là, il y a beaucoup de... il y a deux grands joueurs qui ne sont pas présents pour l'instant, à savoir Ja Morant et le joueur néo-zélandais. Maintenant, pour dire un mot sur les Raptors, actuellement 11e dans la conférence Est. Écoutez, les Raptors vraiment inconsistants. Ils sont allés faire plusieurs matchs à l'extérieur. Ils avaient gagné par exemple à Dallas. D'autres matchs aussi comme ça. Maintenant, en même temps, ils ont gagné un match miracle. Ils jouaient à domicile contre Washington. Les Wizards, ils étaient menés de 22 points ou 23 points à certains moments du match. Ils ont réussi à remonter le score et à gagner au finish. Mais je ne vais pas dire inquiet, mais je suis perplexe par rapport aux performances des Raptors. Parce que, vous savez, cette équipe-là a raté les playoffs l'année dernière parce qu'ils ont raté des lancers francs. Parce que aussi, quelque part, leurs joueurs stars n'étaient pas vraiment au niveau. Siakam continue de scorer, mais de façon un peu inconstante. D'ailleurs, depuis le début de la saison, sur peut-être une dizaine de matchs, il a atteint la barre des 30 points que deux fois. Or, pour un joueur vraiment star, il faudrait beaucoup plus que cela. Deuxième problématique, c'est le système de jeu. On sent clairement qu'ils ont retrouvé une certaine identité défensive. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en NBA, il ne suffit pas simplement de défendre. Il faut pouvoir convertir les attaques de façon plus efficace. Et dans ce sens-là, il n'y a que Siakam, Scottie Barnes et peut-être le nouveau meneur là qui arrive à aligner les performances. Le reste, c'est vraiment inconstant. OG Anunoby qui s'est blessé, on l'a appris en faisant la cuisine chez lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Se blesser au dos en faisant la cuisine chez lui, mais c'est quasiment ridicule que des choses comme ça arrivent. Donc, toujours est-il que Et puis, il y a bien sûr des joueurs absents ou qui n'arrivent pas à aligner les performances, comme Christian Coloco, blessé depuis longtemps. Precious Achua, on attend depuis longtemps qu'il arrive à faire quelque chose de conséquent. C'est vraiment dommage ce qui arrive aux Raptors. Je ne sais pas s'ils ont le niveau requis pour pouvoir aller en playoff, mais il faut vraiment qu'ils y arrivent parce que Toronto mérite de connaître à nouveau des émotions. Je vais dire un mot sur les rookies, puisque je parlais de Victor Wembanyama, qui pour l'instant est toujours en tête du classement non officiel des rookies, pour l'instant avec une moyenne de presque 19 points par match. D'ailleurs, face à l'équipe de Minnesota, il avait scoré 29 points. C'était un match assez intéressant. Il a aussi réussi une performance, bon, pas extraordinaire, face au Oklahoma City, le Thunder, mais toujours est-il qu'il arrive à faire des bonnes choses dans les deux côtés, que ce soit aussi bien en attaque qu'en défense. Et je rappelle que jusque-là, il était troisième parmi les contreurs en NBA. Numéro 2 des rookies, c'est Chelton Green, l'Américain de Oklahoma City Thunder, donc qui arrive à mettre aussi près de 18 points par match. Ausar Thompson, c'est le numéro 3, rookie des Detroit Pistons. Quatrième, c'est Brandon Miller de Charlotte. Cinquième, Jordan Hawkins de New Orleans Pelicans. Keontae George de Utah. Septième, c'est la surprise là, c'est le Français des Washington Wizards. Bilal Koulibaly, joueur à surveiller, joueur qui va avec beaucoup d'énergie lorsqu'il est sur le terrain. Franchement, regardez ce joueur-là, vous ne serez pas déçu, vous serez même très agréablement surpris. Bilal Koulibaly. Cason Wallace est 8e, 9e Derek Lively de Dallas Mavericks. Et enfin le 10e, c'est Marcus Sasser des Detroit Pistons. Je ne sais pas si je peux retrouver le détail des matchs des Raptors. J'essaye de voir ça, mais pour l'instant, ça ne s'affiche pas. Je vais voir ce qu'il y a. Je sais que par exemple, mercredi, il jouait contre Minnesota, pardon, pas Minnesota, contre Milwaukee à domicile. Et puis, ben, ça avait été une grosse, grosse, grosse défaite. Je sais que le samedi, ils vont jouer contre Boston, les Celtics. Et là, c'est un match, ça va être vraiment compliqué pour eux, puisque les Celtics, on sait très bien que dans la division S, c'est une équipe vraiment dominante. Je ne sais pas. Si les Raptors arrivent à gagner ce match-là, ce sera une belle performance. S'ils perdent, ce ne sera pas une énorme surprise. Quel autre match ils vont jouer après celui-là? Ce sera face aux Pistons. Donc ce sera le dimanche. Et là, franchement, il faut tout faire pour gagner ce match-là. Le samedi, face au Boston, les Celtics, on comprendrait une défaite. Mais face aux Pistons, il faut absolument gagner. Défaite serait, dans ce sens-là, absolument impardonnable. Et je regarde leur prochain match après celui-là. Ce sera face au Orlando Magic. C'est un game quand même, un match qu'ils peuvent gagner là, même si c'est à l'extérieur, même si c'est en Floride, il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant dans ce match-là. On va, pour conclure cette émission de Cédric du Sport, l'émission de sport de chaque FM, que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi, on va vous donner les résultats, pardon, les statistiques individuelles. Vous savez, la NBA, c'est une ligue de statistiques. Donc, pour les meilleurs marqueurs, pour l'instant, c'est le Camerounais français américain Joel Embiid qui est premier pour l'instant, deuxième Steph Curry, troisième Luka Doncic, quatrième Kevin Durant, cinquième Nikola Jokic. Donc tous ces joueurs-là sont à plus de 30 points par match. Belle performance. Niveau des passes, Tyrese Haliburton de Indiana a 12 passes par match et lui, il a réussi une belle série là sur deux matchs, 32 passes, 0 balle perdue. Il faut savoir qu'en basket, c'est extrêmement rare de faire autant de passes sans perdre de ballon. Parce que par définition, la passe, c'est donner le ballon à un coéquipier, mais avec le risque de se faire intercepter. Donc, Tyrese Haliburton, un joueur vraiment très propre. Et Indiana, qui avait vraiment eu le nez creux en recrutant ce joueur-là, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, en le faisant venir de Sacramento. Donc, disait au classement des passes, Tyrese Haliburton de Indiana, deuxième Trae Young de Atlanta, troisième LaMelo Ball de Charlotte, quatrième Nikola Jokic, un pivot qui est quatrième au niveau des passes, surprenant, alors que Luka Doncic est cinquième. Niveau des rebonds, c'est Nikola Jokic qui est premier, Domantas Sabonis deuxième, Rudy Gobert troisième, Mitchell Robinson quatrième, Anthony Davis cinquième. Niveau des contres, c'est Anthony Davis qui est premier, suivi par Brook Lopez, Victor Wembanyama qui reste troisième, quatrième Rudy Gobert et cinquième Daniel Gafford. Au niveau des interceptions, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui est premier, suivi par Paul George, Jalen Suggs, Marcus Smart et Donovan Mitchell. C'est sûr, ce mot, de la NBA que l'on conclut cette émission du samedi 18 novembre de Cédric du Sport. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. La semaine prochaine, c'est confirmé, pas d'émission puisque c'est la pause internationale qui se poursuit. Il n'y aura pas de match du tout, donc très peu d'actualité. On se retrouvera au début du mois de décembre, je pense que ce sera le 2 décembre, pour la première émission de l'hiver. Je pense qu'il aura véritablement commencé dans la région du Grand Toronto. On se retrouve donc dans 2 semaines pour Cédric du Sport, toujours avec vous sur le 105.1, sur le chocfm.ca. Et entre-temps, vous aurez reçu l'interview exclusive avec le seul coach francophone d'une équipe professionnelle de basketball. Ça a été un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Restez au chaud sur la radio Choc FM.